n'en ai pas la moindre idée, s'emporta Andreas. Ils ne font que leur devoir, monsieur Saint-Loup. Et quel est-il ? Demanda-t-il courroucé. Je crois que Denis de Tourville vous l'a dit. Leur devoir est de vous empêcher de lire ce livre. Et comment pourrais-je me débarrasser d'eux ? Ce sont des assassins et je ne suis pas, moi, un homme d'épée. Un érudit tel que vous, oserait-il prétendre que la force du corps l'emporte sur celle de l'esprit ? Si vous tenez votre parole, Andreas, là où vous irez, ils ne pourront pas vous suivre. Ils ne pourront pas me suivre. Chacune de vos réponses appelle de nouvelles questions, vous parlez par énigme. Pouvez-vous au moins me dire une chose qui fût tangible ? Le nom de cette personne, par exemple, cette personne que j'ai oubliée. Son nom, ici, n'existe pas. Il n'existe plus, peut-être, mais non, il n'existe pas. J'admets que la chose soit pénible à saisir, mais souvenez-vous, cette personne n'a pas seulement disparu de votre avenir, elle a disparu de votre monde, et donc aussi de votre passé, ici. Elle n'a jamais été. Et pourtant, je dois la retrouver, se moqua Andreas. Je dois retrouver quelqu'un qui n'a jamais été. Ce n'est pas elle que vous devez trouver, mais le livre. Cela revient au même. À en croire son titre, ce livre non plus n'existe pas. Ne dit-on pas que l'on ne doit pas juger un livre à son apparence ? S'il a un titre, c'est qu'il existe. Au moins dans nos pensées. Platon dirait qu'il a au moins une existence dans le monde intelligible. En outre, ne vous ai-je point dit que cette traduction de Chatyrum la miuma me semblait impropre ? Alors il existe. La question serait plutôt, s'il existe, par qui peut-il être lu ? Vous qui fûtes élevé dans une abbaye, je suis certain que malgré votre irréligion, vous connaissez fort bien les Écritures. Songez donc à un autre livre, et au cinquième chapitre de l'Apocalypse. Puis, je vis, dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Je vis aussi un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délier les sceaux ?» Et nul, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Et moi, je pleurais beaucoup de ce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, « Ne pleure point. Voici le lion qui est de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et en délier les sept sceaux. » Et où serait-il ce maudit livre ? À Compostelle ? Si vous commencez à vous souvenir. D'autres se souviendront avec vous, murmura le sage plutôt que de répondre. Est-ce qu'il est à Compostelle ? Répéta Andreas irrité. De nouveau, le sage ne répondit pas. Et comme il resta silencieux, Andreas comprit que sans doute, il ne parlerait plus. Pour lui, tout était dit. En cet instant, notre bon apothicaire avait perdu tout le flegme qu'on lui connaît d'ordinaire. Et il était moult agité par une nuée de sentiments conflictuels. Il était irrité, d'abord, par la mise en scène tordue et empesée à laquelle il venait de participer dans cette pièce obscure. Il était excédé, ensuite, par l'ésotérisme irrationnel qu'on lui offrait comme seule réponse à ses interrogations. Il était furieux, enfin, envers lui-même. Pour avoir en sa mémoire de telles défaillances et n'y trouver aucune meilleure explication que ce mysticisme foutraque auquel on voulait le forcer. Le pire, en somme, était qu'une partie de lui-même semblait prête à envisager cette hypothèse saugrenue, et que ce faisant,